Les pages qui relatent un appel dans la Bible sont parmi les plus émouvantes de la parole de Dieu. Déjà, on le voit dans l'Ancien Testament avec cet appel de Samuel et puis les premiers disciples. Dire que Dieu, d'une manière ou d'une autre, veut avoir besoin de nous, veut passer par nous pour se révéler, pour se dire. Et il y a des constantes dans l'appel de Dieu, que l'on retrouve aussi dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. On peut en citer quelques-unes. Premièrement, que l'initiative vient toujours de Dieu quand c'est un appel du Seigneur. Ce n'est pas simplement le fruit de notre imagination, mais au contraire, c'est le Seigneur lui-même qui fait naître dans le cœur des hommes et des femmes le désir de le suivre. Il y a aussi l'appel à quitter quelque chose. Alors on ne le voit pas dans le livre de Samuel, qui relate l'appel de Samuel, mais on le voit évidemment avec Abraham, hein, on le voit évidemment avec les disciples, quitte ton pays et la maison de ton père. Il y a toujours quelque chose à quitter pour servir le Seigneur et le suivre et répondre à son appel. Il y a quelque chose, quelque part, à offrir. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas penser au sacrifice d'Isaac. Ce qui permet, au fond, d'exercer notre liberté. C'est ça, l'appel du Seigneur ne se fera pas sans nous. Parfois, certains sont un petit peu anxieux, etc. Mais est-ce que je suis appelé à ceci, à cela? Le premier informé, ce sera toi, évidemment. Mais à la fois tu seras informé, à la fois il y aura quelque chose à laisser. Et le fait de laisser quelque chose, et on le voit dans tout appel, hein, de renoncer, parce que choisir c'est renoncer, que ce soit l'appel au célibat consacré, l'appel au mariage, il y a d'une manière ou d'une autre quelque chose à laisser, à quitter. C'est ce qui fait la grandeur et l'aspect redoutable de l'appel, et en même temps qui nous permet d'exercer un vrai choix. Quelqu'un qui ne quitterait rien, ce serait assez, disons, étonnant. Est-ce que vraiment il veut suivre le Seigneur? Mais aussi, et ça on le voit très clairement dans le récit de Samuel, de l'appel de Samuel, cet appel-là, et on le voit évidemment dans l'Évangile, cet appel-là, il passe par des médiations. Et ça, c'est un aspect qui est important. Nous sommes, par excellence, les chrétiens, nous sommes la religion des médiations. Dieu passe par des médiations humaines pour se révéler. Déjà dans l'Ancien Testament, avec Élie qui ne comprend pas bien, mais qu'est-ce que tu as entendu? Écoute, non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher par trois fois. Et puis à la fin, il se dit, mais tiens, est-ce que la prochaine fois qu'il t'appelle, tu répondras, me voici, Seigneur. Et puis la médiation de Jean-Baptiste, évidemment, dans l'appel des premiers disciples. Et puis quand vous regardez aussi, Jésus appelle les disciples par la médiation de ceux qui viennent d'être appelés, des premiers apôtres. Hein, donc André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ses deux disciples. Il va voir son frère, lui, nous avons trouvé le Seigneur. Encore une médiation. Donc c'est intéressant de voir que si l'appel est intérieur, d'une manière ou d'une autre, il y a besoin d'objectiver l'appel de Dieu, que d'autres vérifient l'appel du Seigneur, que ce ne soit pas simplement le fruit de notre imaginaire. Et c'est vrai que le Seigneur, en créant son Église, en fondant son Église, et singulièrement sur Pierre, a voulu fonder son Église pour nous rappeler cette importance des médiations humaines. Aussi imparfaite soit-elle, aussi discutable soit-elle, etc., c'est ça que Dieu a choisi pour se révéler et pour valider l'appel du Seigneur. D'où l'importance de l'accompagnement spirituel. L'accompagnement spirituel qui est, je trouve, assez peu connu des fidèles, de dire que dans certaines étapes de notre vie, ou parfois tout au long de notre vie, ça dépend des uns et des autres, eh bien, on a besoin d'une tierce personne, d'une médiation, justement, pour valider tel ou tel choix. Ça peut être le choix professionnel, un choix de déménagement, un choix, voire financier, un choix, évidemment, de vie, avec les grands choix de vie dans le mariage ou le célibat consacré. L'accompagnement spirituel va permettre aussi, face à un aîné dans la foi, de remettre ce que l'on a perçu comme un appel du Seigneur et de le faire valider. Et donc l'importance de ça, cet appel à se faire accompagner, c'est la grâce de l'Église. On n'est jamais seul. Dans l'Église, on n'est pas seul, on est accompagné. D'autres prennent soin de nous. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi se... Je trouve parfois que vous restez trop seul dans vos décisions, trop seul dans vos choix, alors qu'il est à votre disposition, que ce soit des prêtres religieux, religieuses, laïcs, maintenant formés pour accompagner, des personnes qui peuvent jouer ce rôle d'aîné dans la foi. Mais on voit aussi que si le désir est un des critères fondamentaux de l'appel, désir intérieur, que seule la personne connaît, la durée du désir est un aspect objectif qui permet à celui qui discerne de voir si c'est de Dieu ou pas. Et on le voit avec Samuel. Par trois fois, Dieu l'a appelé. Et au bout de la troisième fois, eh bien là, Élie a dit, c'est de Dieu. Vous connaissez certainement l'histoire du frère Christian de Chergé, qui était prieur à Tibérine et qui a été tué avec un certain nombre de ses frères, comme nous le savons. Avant d'être moine cistercien, il était prêtre du diocèse de Paris, si je ne fais pas erreur. Et il est allé voir son évêque et il lui a dit, bah, écoutez, voilà, il me semble que le Seigneur m'appelle à la vie monastique. Alors c'est un homme équilibré, un homme rayonnant, un prêtre rayonnant, etc. Évidemment, quand on est évêque, on ne veut pas laisser partir ce genre de prêtre-là, on préfère le garder pour soi. Bon, alors l'évêque dit non. Ben non, restez dans votre paroisse, d'autant plus que quand on est en paroisse, on voit la vie monastique comme une sorte de havre de paix, de paradis terrestre sur terre, parce que voilà, on peut un peu souffler, etc., alors que la vie paroissiale, on est à fond, bref. Bon, première année. Deuxième année, la même chose. Troisième, quatrième année, la même chose. C'est un homme, disons, bien assis dans son discernement, équilibré. Et au bout de la quatrième année, l'évêque se dit, mais qui suis-je pour m'interposer comme ça face à l'appel du Seigneur? Et comme ça se passe dans ces cas-là, il y a la possibilité de faire des essais dans la vie monastique ou la vie religieuse, et le prêtre, voilà, fait un certain nombre d'essais. Il y a toute une période d'apprentissage et de vérification, tant de la communauté qui accueille que du diocèse qui laisse ce prêtre faire cette expérience. Vous voyez la durée du désir. Soyons attentifs aux désirs dans notre cœur qui persévèrent, qui sont longanimes. Vous savez, longanime, c'est avoir une âme longue. C'est-à-dire qu'ils sont endurants, ces désirs qui nous emmènent et qui reviennent régulièrement. Soyons très attentifs, parce que ce n'est pas par hasard qu'ils reviennent. S'ils reviennent dans notre cœur, peut-être Dieu lui-même nous appelle à ceci ou à cela. Alors oui, frères et sœurs bien-aimés, c'est beau de voir à travers cet appel du Seigneur aussi un autre aspect et une autre condition de l'appel, on peut dire, c'est évidemment la confiance et l'abandon. Me voici, Seigneur, je veux faire ta volonté. Et puis vous avez remarqué, c'est assez étonnant, dans la réponse de Jésus aux premiers disciples, venez et vous verrez. En général, nous, on fait exactement l'inverse. On voit et ensuite on va. On voit ce que c'est, si c'est, du lard ou du cochon, qu'est-ce que quoi, cet homme-là qui n'est pas connu, ce rabbi qui est tout à fait inconnu. On va voir un peu qu'est-ce qu'il dit, sa parole, etc. Et ensuite, on va le suivre. Et là, c'est l'inverse. Venez et vous verrez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout appel, il y a une dimension de confiance. Il y a une dimension de lâcher prise. On ne sait pas de quoi sera fait l'avenir, mais on sait avec qui on le vivra. Et ça, c'est capital. Et parfois, des personnes n'arrivent pas à répondre aux demandes du Seigneur parce que, par excès de désir de contrôle, on est dans une société de plus en plus de contrôle, je veux dire sécuritaire, il faut que tout, le risque zéro, le principe de précaution, tout doit être, voilà. Alors c'est sûr que quelqu'un qui te dit « venez et vous verrez », non, ça ne rentre pas dans mes cases. Mais justement, l'appel du Seigneur, il nous déséquilibre intérieurement, parce qu'on sait bien que la marche est un déséquilibre permanent, et que pour nous mettre en rechemin. Et ce déséquilibre, au fond, c'est l'apprentissage de la confiance. Alors, c'est jamais gagné, parce que, justement, on verra Pierre aussi qui aura ses moments de doute et de reniement. On verra les différents apôtres, voilà, qui laisseront le Seigneur au pied de la croix, bon, à l'exception de Jean, etc. Bon, mais qui finalement reviendront au Seigneur. Bien, bon, ça, on est au tout début de l'Évangile. Mais je trouve ça intéressant de se dire cette importance de la confiance, cette importance de l'abandon. Quand on commence quelque chose à la suite du Seigneur, on ne sait pas de quoi ce sera fait. On ne sait pas, on n'a pas de business plan super équilibré avec tout et tout. Non. Et tas de choses, on a une intuition, on a quelque chose qu'on fait valider, etc. Puis on dit à la grâce de Dieu, quoi, on y va, puis on verra comment ça avance. Voilà, donc du coup, je trouve que c'est beau d'avoir ces textes d'appel au tout début de cette année civile, parce que ça nous remet en chemin, que soyons attentifs, simplement, aux appels dans le quotidien. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit, nous dit saint Paul dans la deuxième lecture. Voilà, le Saint-Esprit, ce qu'on appelle l'émotion du Saint-Esprit, qui travaille en nous, qui nous fait vouloir le bien. Bien, tiens, si je fais... d'être juste attentif. Pourquoi il y a telle chose qui monte en moi? Et ça, ça demande évidemment une vie spirituelle, une vie intérieure. Si on est toujours dans l'excitation, avec de la musique, forcément. Et si on ne s'habite pas soi-même, c'est compliqué d'écouter l'appel du Seigneur. Alors on va demander cette grâce, et singulièrement à la Vierge Marie, qui est celle qui a cru, qui est celle qui a quitté ses plans, ce qu'elle avait prévu. La tradition rappelle qu'elle avait prévu plutôt d'être au temple consacré à la louange de Dieu. Eh bien, voilà. De même, Joseph, qui avait choisi cette fiancée et pensé, voilà, avoir une famille, j'allais dire, comme tout le monde. Rien ne s'est passé comme il avait prévu. Ben voilà, c'est la vie des saints, c'est toujours comme ça. Aussi, vous pouvez prendre des tatas de ça, ou c'est pas du tout ce qu'ils avaient prévu. Ben voilà, je trouve que c'est autant d'exemples qui nous encouragent et nous permettent de dire, ben voilà, on veut se mettre à ta suite, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen.